présence le grand entretien.
Isabelle Duché avec des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ce matin pour dresser le bilan des assises régionales.
Oui, lors de leurs assises régionales, les 7 et 8 mars, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, ont réfléchi à la manière dont l'intelligence artificielle est au service de la pensée sociale chrétienne en entreprise. Les deux invités de Radio Présence ce matin y étaient et nous dressent le bilan de leurs échanges et de leurs questionnements. Je reçois d'abord Cyril Gindre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune retraité d'une société toulousaine du spatial pour laquelle vous étiez ingénieur. À vos côtés, Jean-Baptiste Pro, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous avez une expérience en direction générale d'entreprises technologiques et vous avez aussi présidé l'antenne régionale des EDC Midi-Pyrénées. On va faire un tout petit retour en arrière avec cette date du 28 janvier, au cours de laquelle les dicastères romains pour la doctrine de la foi et pour la culture et l'éducation ont publié une note conjointe sur l'intelligence artificielle intitulée « Antiqua et Nova ». Deux semaines après, se tenait à Paris le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle. Alors là, on peut dire que vos assises des EDC étaient vraiment dans le sujet. Quel était l'enjeu principal pour les EDC à se saisir de ce sujet, Jean-Baptiste Pro?
Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, va refaçonner profondément les entreprises avec un vrai risque de bouleversement des métiers. Donc, suivant plusieurs études, jusqu'à 10% des emplois pourraient disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Alors, je vous rassure, il y aura évidemment des créations d'emplois dans d'autres domaines. Hein, ça peut être une destruction créative, comme on dit, mais avec un véritable enjeu sur l'humain. Et près de 50% des emplois pourraient être très largement automatisés. Donc là, c'est un sujet dont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens devaient se saisir, d'autant qu'en fait, on n'aura pas le choix. Il faudra adopter l'IA. C'est déjà un état de fait, puisque l'adoption majeure de l'IA est faite de manière pirate, on appelle ça du shadow IA, par les salariés des entreprises. Et donc, il faut qu'on gère, il faut qu'on pilote en fait cette adoption pour préserver l'humain.
Oui, et puis donc anticiper et ne pas vous sentir piégé. Cyril Jeanne, vous êtes intervenu pendant ces assises régionales des EDC. Vous étiez spécialisé en intelligence artificielle dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler avec quelques exemples à quoi sert cette intelligence artificielle?
Oui, alors je donnerai quelques exemples. Je commencerai en fait par ceux qui nous ont tenus par un intervenant qui s'appelle Nicolas Rouillère des EDC qui est intervenu. Et donc, un premier exemple, en fait, sur le pliage des protéines. Alors, le pliage des protéines, ça ne vous parlera peut-être pas beaucoup.
C'est peut-être pour les chimistes qui nous écoutent, alors.
Ça va servir pour les chimistes. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est de se dire que, eh bien, en fait, suite à ça, les gens qui ont mis en œuvre cette IA ont obtenu le prix Nobel de chimie. Donc, ça veut dire que l'IA, on pourrait dire que c'est l'IA qui a gagné le prix Nobel, mais en fait, non. C'est les gens derrière. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est les personnes plus l'IA qui ont obtenu le prix Nobel. Et bon, c'est un exemple extrême, mais pour nous, ça illustre que l'homme avec l'IA va pouvoir faire vraiment des gros progrès.
Et pas l'IA à la place de l'humain.
Et non pas l'IA à la place de l'humain, voilà, c'est ça.
Un autre exemple, peut-être?
Alors, bien sûr, d'autres exemples. Alors, des tracteurs, par exemple, maintenant, sont équipés de caméras avec des réseaux de neurones. Et donc, grâce à ça, ils vont pouvoir arriver à économiser jusqu'à 80% de pesticides.
Oui, parce qu'ils repèrent les zones, en fait, grâce à ces caméras.
Voilà, c'est ça. Et donc, n'en mettre que sur les zones où cela est nécessaire.
Ouais. Donc, non seulement ça fait une économie, puis un gain de temps aussi pour les agriculteurs.
Un autre exemple, parce qu'il y a plein d'exemples différents, évidemment. Un autre exemple, c'est si on veut réaliser des itinéraires pour un coursier, on le fait en fonction des clients qu'il doit visiter. Mais on va pouvoir le faire aussi en fonction du trafic. Et pour ça, l'IA ira chercher sur Internet les éléments de trafic et pourra reconfigurer le trajet du coursier en fonction du contexte réel. Mmh. Voilà, bon, c'est juste quelques petits exemples. Alors, je peux vous donner d'autres exemples. Des exemples sur... Il y a des IA de classification.
Oui, il y a deux façons de classer, en fait, l'intelligence artificielle, c'est ça?
Oui, disons, je dirais qu'il y a des IA qui permettent plusieurs choses différentes. Ici, la classification, ça va être pour classer des choses qui seront vues, par exemple, je prends un exemple, sur la détection automatique des plaques d'immatriculation. Donc derrière, ça peut être des IA. Donc ça va servir typiquement lorsque votre véhicule rentre sur un péage, vous avez déjà dû le voir dans les parkings, hein, c'est de manière automatique. Et aussi les IA génératives, et là on voit des systèmes qui sont capables de comprendre ou qui semblent capables de comprendre nos questions et d'y répondre. Donc, pour prendre un exemple, hein, juste puisque c'est important d'avoir des exemples concrets, une société par exemple qui a scanné 20 ans de fiches de paye de ses collaborateurs, a demandé à une IA de les analyser et de sortir automatiquement un tableau avec reconstitution des salaires, des primes, etc. Tout ça, ça s'est fait en quelques secondes, au lieu d'une semaine à une personne.
Oui, bien sûr. À condition de donner les bonnes consignes à l'IA pour exprimer exactement ce qu'on attend.
Absolument. Alors, ce n'est pas encore magique. Hein. Puis, on est en train de progresser. Et ce qui était impossible il y a 2 ans, devient possible maintenant. Il sera courant peut-être dans 3 ans. Pour le moment, on est quand même un peu dans une évolution qui est très intéressante à suivre, mais qui est parfois un peu, qui peut faire un peu peur.
Quand même. Oui,
donc,
oui.
Et d'où tout l'intérêt de ces SACIS.
Et alors justement, vous dites que, Cyril Jeanne, que ça peut faire un peu peur. Quel est exactement le danger technologique de l'intelligence artificielle?
Alors, d'abord, il y a des dangers que l'on voit maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler typiquement des générateurs de fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news, par exemple, qui peuvent être faites par IA. Les dangers liés aux images générées où on peut ne pas être capable
de distinguer
si
le vrai du faux.
Ou pas, quoi. Ouais. Voilà. Puis moi, je mentionnerai peut-être 3 petits points qui vont être des problèmes qu'on commence à anticiper pour le futur. Donc, on ne voit pas forcément, c'est intéressant de les mentionner. D'abord, le problème de l'alignement, c'est-à-dire que, en fait, l'IA, elle n'a pas de sens commun comme nous. Donc, ça veut dire
que... Oui, c'est propre de l'intelligence humaine.
Et oui. Et donc, ça veut dire que plus elle va être intelligente, plus on lui confiera de choses, plus on va se rendre compte qu'en fait, il y a un écart entre ce qu'on aurait voulu qu'elle fasse et qu'on n'a peut-être pas forcément bien exprimé et ce qu'elle fait réellement. Donc, un tout petit exemple, alors qui est plus amusant qu'autre chose, hein, c'est des gens qui ont essayé sur un bras robotisé d'apprendre au bras robotisé à déplacer une balle. Donc le bras robotisé, il a une pince, il prend la balle, il la déplace. C'est facile. Et puis on se pose la question de dire, mais si cette pince tombait en panne, est-ce qu'il saurait faire? Est-ce que l'IA est capable de s'adapter? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué la pince. Et donc le bras robotisé, il ne pouvait plus bouger. Donc ce qu'on s'attendait, c'est qu'il essaye de bouger la balle en poussant avec la pince.
Sans la saisir.
Sans la saisir, puisqu'il ne pouvait plus. Et en fait, au lieu de faire ça, il s'est débrouillé pour réparer sa pince, il l'a débloquée. Il est arrivé à reprendre la balle. Donc finalement, il a répondu à la question, mais il ne l'a pas fait comme on aurait voulu, parce que le jour où la pince est vraiment en panne, on ne sait pas s'il sait faire.
Eh oui, c'est sûr.
Alors c'est un tout petit exemple, évidemment, mais qui permet de l'illustrer.
Alors, on va continuer un petit peu sur toutes ces questions. Il y a aussi, vous disiez, on ne sait pas encore tellement où on va. Il y a quand même une croissance démesurée de la puissance des machines qui permettent de générer cette intelligence artificielle.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est important. C'est les ordres de grandeur. En fait, on a beaucoup de mal à avoir des ordres de grandeur. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments, mais c'est pas très facile. Les superordinateurs, actuellement, leur puissance, elle se multiplie par 1000 tous les 13-14 ans. Et ce, depuis 80 ans. C'est-à-dire, pour donner un exemple, hein, si on parlait d'un obstacle à surmonter, cet obstacle, il ferait 1 mm dans les années 90. Aujourd'hui, il ferait plus d'un kilomètre. Et dans les années 40-50, il sera plus grand que la distance Terre-Lune. Donc, quelque chose qui paraissait être un obstacle bénin, à un moment donné, on dit, mais bon sang, comment on le passe? Et puis après, on dit, mais on peut plus le passer.
Oui, donc c'est vertigineux quand même, cette puissance.
Un autre exemple, c'est ces mêmes ordinateurs, hein, ce n'est pas ceux qu'on a sur nos tables, hein, mais en fait, à chaque fois, on s'y rapproche, que les nôtres aussi augmentent. Ils sont capables de faire 1 milliard d'opérations à la seconde. Donc, quand je vous dis ça, vous allez me dire, vous m'auriez dit...
Difficile de visualiser
milliards,
quand même.
Ouais. Bon, c'est impossible de voir. Pour essayer de vous donner un exemple, c'est à peu près le nombre de grains de sable qu'il y a dans la dune du Pilat. Ouais. Donc ça veut dire, vous imaginez, l'ensemble de la dune du Pilat est passé toutes les secondes.
Ouais, c'est fou.
Et dans 15 ans, ça sera 1000 fois la dune du Pilat toutes les secondes.
Ouais. Jean-Baptiste Pro, comment se manifeste ce risque pour le travailleur en entreprise ?
Alors, on a eu, au-delà de la chance d'avoir Cyril lors de nos assises, on a eu la participation du sociologue Ian Ferguson, qui dirige le laboratoire Laboria au sein de l'INRIA en particulier, qui a été reconnu par l'usine Nouvelle comme faisant partie des 200 Français qui comptent dans le domaine de l'IA dans le monde. Donc c'est une très belle reconnaissance. Et Ian Ferguson, en fait, a analysé 5 catégories d'impact de l'intelligence artificielle sur les travailleurs. Le premier impact, c'est le travailleur remplacé, donc c'est évidemment le pire cas. Ce risque menace en fait les personnes qui travaillent dans les métiers les plus routiniers, qui sont du coup les plus faciles à modéliser, les plus faciles à remplacer par l'IA. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est à peu près 10% des emplois. Deuxième catégorie, le travailleur dominé. Donc ça, des mauvaises utilisations de l'IA peuvent amener en fait à l'utiliser pour donner des consignes aux travailleurs, donc des instructions, pour contrôler le travail, est-ce que le travail est fait correctement, et ensuite même évaluer le travailleur. Donc là, évidemment, on tombe dans un domaine, dans un schéma de domination de l'homme par la machine, qui serait extrêmement enfermant. Ensuite, il y a une catégorie plus heureuse, qui est le travailleur augmenté. Donc là, c'est un modèle de collaboration heureuse de l'homme avec l'intelligence artificielle, dans lequel l'homme décuple ses moyens en posant les bonnes questions à l'intelligence artificielle ou alors en confiant à l'intelligence artificielle des tâches qui sont des tâches administratives. Donc tout le monde a vécu en entreprise la manipulation de dizaines de fichiers Excel en essayant de capter dedans les données intéressantes, faire du copier-coller pour en faire des calculs d'indicateurs qu'on souhaite mettre en place. Ça, c'est typiquement le genre de tâche que l'IA peut faire. Généralement, ça ne détruit pas d'emploi, ça ne fait que donner davantage de valeur à la personne qui va pouvoir se concentrer sur réellement sa mission,
oui.
Réellement sa tâche, c'est-à-dire décider, piloter l'humain en confiant à la machine des tâches d'assemblage qui aujourd'hui ne sont confiées à personne d'autre. Donc ça, c'est une catégorie heureuse. Il y a ensuite le travailleur divisé, c'est-à-dire que dans une même catégorie de travailleurs, il peut y avoir une séparation en deux sous-catégories, ceux qui ont su adopter l'IA, qui ont su monter vers le haut, et ceux qui finalement subissent et se sentent déclassés. Donc il y a vraiment un risque, on va dire, de division d'apparition d'une catégorie de winner takes all, et de personnes qui se sentent dominées. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, hein, qui montrent qu'en entreprise, finalement, quand il y a l'adoption de l'IA, les salariés les plus heureux sont ceux qui travaillent sur la mise en place de l'intelligence artificielle, et les moins heureux sont ceux, en général, qui la subissent et qui doivent travailler avec. Et enfin, dernière catégorie, le travailleur réhumanisé, c'est-à-dire, c'est un petit peu en lien avec le travailleur augmenté, hein, c'est l'idée que ça permet en fait aux travailleurs de se concentrer sur des compétences proprement humaines, faire davantage de management, se préoccuper davantage de la maison, entreprise, plutôt que sur des tâches administratives. Maintenant, je conclue quand même sur un risque, sur les catégories augmentées, réhumanisées qui sont positives, le risque en fait de déléguer trop à l'intelligence artificielle c'est les décisions ou des recommandations, et un peu par paresse intellectuelle, de la même manière que parfois que son GPS, on peut lui déléguer une confiance totale et se retrouver dans un chemin forestier enlisé. J'ai fait un clin d'œil à un ami. De la même manière, en fait, on peut tomber dans une paresse intellectuelle qui, finalement, tout en étant utilisateur positif de l'IA, tomber dans une forme d'esclavage.
Et donc, finalement, au cours de ces assises, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont réfléchi à des règles pour appliquer l'intelligence artificielle à leur propre entreprise. Est-ce que vous pourriez, il nous reste 2 minutes, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes, nous faire un petit résumé de ce qui a été, échangé?
Oui, très bien. Donc, en fait, on a mis en place ensemble un canevas d'analyse, d'un scénario d'adoption de l'IA. Et en discutant entre nous, en prenant les conseils des uns et des autres, on a établi une petite méthode qui consiste à d'abord cadrer l'adoption de l'IA par une charte, ensuite analyser les projets de l'IA sous l'angle d'abord des 5 catégories analysées par Ian Ferguson qui nous permettent d'éclairer les risques et surtout de l'analyser.
Alors, vous pouvez peut-être les donner, ces 5 catégories, parce que c'est intéressant quand même de...
Je les rappelle, hein, c'était celle que j'ai mentionnée à l'instant, c'est travailleurs remplacés, dominés, augmentés, divisés, réhumanisés, voilà. Et puis, bien entendu, sous l'angle des 6 principes fondamentaux de la pensée sociale chrétienne, qui est la base, en fait, de ce sur quoi travaillent les EDC, qui est vraiment notre référentiel de management, je pourrais dire. Donc, c'est la dignité de l'homme, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens et la solidarité. Enfin, associer les instances représentatives du personnel et le personnel lui-même à l'adoption. Il faut que ce soit un projet partagé. Il faut mettre en place un comité de surveillance qui vérifie qu'il n'y a pas de dérive dans l'utilisation de l'IA. Et puis surtout, former, accompagner au changement, puisque des cabinets comme le BCG ont analysé que 70% des coûts et de l'investissement de la mise en place d'un projet autour de l'intelligence artificielle est autour de la formation, du déploiement de nouveaux processus d'une part, mais bien entendu c'est surtout une responsabilité d'entrepreneur de s'assurer que personne ne décroche et que bien entendu on protège les emplois et qu'on sache accompagner les personnes dans l'évolution de l'adoption.
Pour terminer, Cyril Jeanne, en deux mots, votre sentiment sur ce que pensent les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de l'intelligence artificielle, peur, inquiétude, engouement, fascination, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, disons un peu tout. En fait, moi, je les ai surtout trouvés très dynamiques et motivés et très conscients. Et ils s'engagent tout en faisant effectivement attention à quelle vitesse on va y aller, quels seront les impacts sur mon métier et sur le monde.
Voilà, une dernière phrase pour conclure de votre accompagnateur spirituel.
Ouais, qui nous disait, allons-y en avant, en confiance, avec discernement, en grande vigilance, en présence de Dieu, ne pas se laisser enfermer dans un filet technicien, ne jamais perdre l'intention humaine. Et l'intervenant Nicolas Rouillère disait, la transformation imposée par l'IA pourrait être douloureuse, moi je veux bien souffrir, mais uniquement si c'est par amour.
Ah, magnifique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pro, merci Cyril Gendre.